podcast.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholet, je suis journaliste et je vous propose ensemble de tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. Dans le tête-à-tête du jour, nous allons parler d'une langue reconnue seulement depuis 2005 en tant que telle par l'État, c'est la langue des signes française. Autant dire qu'elle a encore beaucoup de sphères à conquérir, notamment culturelles, et que cela pose la question de la traduction en LSF. Et c'est justement ce sur quoi travaille notre invité depuis de nombreuses années. Bonjour Jérémy Seguet.
Bonjour Sophie.
Vous êtes enseignant-chercheur au département DETIM de l'Université Toulouse Jean Jaurès, DETIM pour département traduction, interprétation et médiation linguistique. C'est juste jusque-là.
Exactement.
En licence et master, vous êtes responsable et coordinateur de la filière langue des signes française. Et enfin, vous êtes chercheur au sein du laboratoire clé de l'UT2J. Et vous êtes également interprète français LSF.
Tout à fait, interprète depuis 2007.
Alors, Jérémy Seguet, traduire quelque chose en langue des signes, on pourrait se dire c'est extrêmement simple. Il suffit de prendre la phrase ou le mot, on y met les signes ou le signe correspondant et c'est terminé. Mais j'imagine que si vous travaillez dessus, c'est que c'est pas si simple.
Effectivement, si c'était aussi simple que ça, finalement, il pleuvrait des chats et des chiens en France. Or, ça, c'est réservé à l'Angleterre et ici, il pleut des cordes. Donc, on a entre la langue des signes française et les autres langues les mêmes problématiques qu'on a entre différentes langues, que ce soit l'anglais, le français, l'allemand, c'est-à-dire que de faire du mot à mot, en l'occurrence de faire du mot à signe, eh ben, ce n'est pas la solution si on veut avoir une bonne traduction. Donc, il y a tout un tas d'éléments de contexte, du contexte linguistique, bien sûr, avec des expressions idiomatiques qu'il faut pouvoir appliquer, mais aussi du contexte culturel et du contexte sociétal, du contexte historique qui vont permettre de pouvoir faire des traductions les plus fines possibles.
Et vous me disiez, en préparant ce podcast, que contrairement à d'autres langues, la LSF, elle n'a pas de modèle théorique de traduction. Et ça, c'est à construire, pour le coup.
Effectivement. Alors déjà, les langues des signes, on va dire, puisqu'il y a une langue des signes dans chaque pays du monde, finalement, puisque la langue est associée à la culture, globalement. Et donc, en fait, il y a une langue des signes française, une langue des signes anglaise, une langue des signes allemande, etc. Donc, les langues des signes n'ont pas un modèle théorique de traduction. Elles ont des méthodologies de traduction qui sont aujourd'hui positionnées, notamment en France, parce que le métier a quand même été pas mal développé. Mais pourtant, il y a plusieurs courants linguistiques. Il faut savoir que les recherches en linguistique sur les langues vocales et langues écrites datent de plusieurs dizaines d'années. En langue des signes, on est vraiment très, très, entre guillemets, en retard. C'est-à-dire qu'on a commencé ces recherches tardivement. Il faut savoir que jusqu'en 1991, en France, on pouvait attacher les mains des enfants sourds à l'école dans le dos pour leur éviter d'utiliser la langue des signes, parce qu'il fallait qu'ils apprennent à parler, il fallait qu'ils apprennent à écrire. Toute cette non-reconnaissance et cette non-mise en avant de la langue des signes a fait qu'il y a eu très peu de recherches, finalement, sur cette langue qui était cachée. Donc les recherches se sont développées tardivement, et les gens qui s'intéressent à ces recherches en langue des signes sont aussi très peu, ce qui fait que les recherches ont commencé très tard, et les recherches, finalement, n'avancent pas très vite. Cependant, elles bénéficient quand même des modèles existants dans les autres langues, donc on peut quand même s'appuyer sur des recherches sur des langues vocales et langues écrites. On ne peut pas les calquer, on ne peut pas recopier un modèle d'une langue à une autre, bien sûr, puisque ce n'est pas les mêmes modalités. Mais en tout cas, on peut s'appuyer dessus pour dire « Ah, on sent qu'il y a quelque chose de similaire, quelque chose de différent ». Et par contre, on espère bien que, justement, on ne va pas tomber dans les mêmes erreurs que les autres langues et que les modèles vont pouvoir un peu, bah, peut-être, s'unir, se rapprocher et se définir un peu plus précisément dans les prochaines années.
Pour traduire en langue des signes française, il y a aussi des dictionnaires, apparemment. Vous avez travaillé dessus.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui ressort de cet outil ou ces outils ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en langue des signes, on va appeler dictionnaire des choses qu'on n'appellerait pas dictionnaire dans les langues, dans la langue française, par exemple, dans la langue écrite. Dans la langue écrite en français, on a des dictionnaires avec des entrées qui sont très, très bien spécifiées. On a un mot en entrée, on a tout un tas d'informations qui vont être données, le genre, des contextes d'utilisation, et des choses plus ou moins détaillées en fonction du dictionnaire dans lesquelles on va puiser l'information. En langue des signes, on va appeler dictionnaire des choses surtout qui vont être basées sur du bilingue. Donc, à partir d'un mot en français, on va arriver à un signe. Mmh. Et c'est tout. On n'aura pas plus d'explications que ça. Les premiers dictionnaires papier, qui datent des années 70-80, plutôt 80, en France, sont basés complètement sur ce modèle. Donc, c'est intéressant pour deux choses. C'est-à-dire qu'on est plutôt parti sur quelque chose du bilingue et on n'avait pas d'explication du signe, entre guillemets, quel est le concept auquel il se référait, mais on se référait plutôt à un mot. Et en plus de ça, on a bâti le lexique de la langue des signes à partir du lexique de la langue française. Or, on n'a jamais fait ça dans une autre langue. On n'a pas dit quels sont les mots qui existent en anglais. Ben, on va leur trouver des équivalents en français et ça, ça sera le lexique en français. Non, on avait des mots pour désigner les choses en français et on a dit bon, ben, ça constitue le lexique de la langue française. Et en langue des signes, aujourd'hui, on ne sait pas encore définir exactement ce qui est le lexique, comment on peut définir le lexique au-delà de s'appuyer sur ce qui existe dans les autres langues au travers de ces dictionnaires-là. Avec les nouvelles technologies, on a maintenant des ressources numériques qui deviennent de plus en plus complètes. Et comme vous l'avez dit, on commence à mener des recherches sur justement l'analyse de ces ressources, qui sont des ressources génériques, enfin générales un petit peu, avec des signes qui concernent la vie quotidienne, mais aussi des ressources terminologiques avec des signes de spécialité. Et on a plusieurs regroupements de personnes qui mettent en place des signes bien précis pour des domaines comme l'astronomie, la santé, la physique, les mathématiques. Donc tout ça, c'est en train de se développer. Il y a énormément de recherches à mener là-dessus.
C'est en train de se développer, ça veut dire que l'accessibilité en langue des signes française de toutes choses, informations, matières, documents, livres, elle est encore limitée.
Tout à fait. Alors il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Ah. Il y a l'accessibilité, effectivement, par exemple, des sites internet ou des informations du gouvernement, de toutes choses qu'on pourrait avoir sous forme écrite ou sous forme vocale qui demanderaient à être traduites ou interprétées en langue des signes. Donc ça, c'est une certaine forme d'accessibilité à l'information de manière générale. Mmh. Et puis après, il y a l'accès à l'information, mais plutôt dans le domaine de la formation. Donc comme on disait tout à l'heure, dans des domaines de spécialité, il faut pouvoir se former, il faut pouvoir accéder à ces informations pour accéder à la formation et développer son niveau de connaissances et de compétences. Il faut savoir qu'en langue des signes, il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que on a un phénomène, on va dire, pour le dire de manière raccourcie, de scénarisation, de mise en, finalement, en situation. On peut se passer du lexique. Je peux vous raconter quelque chose en langue des signes, je peux vous expliquer quelque chose en langue des signes, on peut discuter de quelque chose en langue des signes, même à un très haut niveau, sans avoir besoin d'avoir un signe lexical pour pouvoir le nommer. C'est-à-dire que je vais décrire le concept, je vais pouvoir faire une périphrase, une paraphrase, tout un tas de stratégies linguistiques qui vont permettre qu'on va pouvoir discuter de ce concept. Le problème, c'est que comme on ne va pas pouvoir le nommer de manière précise, si jamais on utilise une certaine forme d'expression et qu'après on rencontre quelqu'un d'autre pour en parler, il va falloir recommencer toute l'explication avec cette personne pour qu'on se comprenne sur le concept qui est échangé. C'est là où le lexique est intéressant, c'est que finalement avec un terme, en fait, on peut se comprendre avec toutes les autres personnes. Mais cette stratégie-là linguistique, donc de scénarisation, on va dire, a permis pendant longtemps aux personnes sourdes d'accéder quand même à l'information, d'accéder à l'information, même si elles n'avaient pas le signe spécifique pour pouvoir en parler.
Là, on parle justement des personnes malentendantes ou sourdes, mais vous vous intéressez aussi à la surdicécité, c'est-à-dire les personnes qui en plus ne voient pas ou mal.
Tout à fait.
Alors là, il faut imaginer du coup d'autres outils.
Exactement. Alors il faut imaginer
ou adaptation,
d'autres outils.
Peut-être.
Ouais. Notamment, il y a un projet de recherche qui réfléchit à étudier comment les personnes sourdes aveugles communiquent, s'informent et se forment. Il faut savoir que les personnes en situation de surdicécité, déjà, comme vous l'avez dit, c'est des personnes qui voient pas ou mal. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui entendent plus ou moins bien, qui voient plus ou moins bien, mais en plus de ça, c'est des personnes qui ont eu cet état de vision ou cet état d'audition plus ou moins jeune ou plus ou moins vieux, avec plus ou moins de handicap associé, plus ou moins rapidement. C'est-à-dire quelqu'un peut-être a eu quelque chose qui s'est développé au cours du temps, il a pu anticiper des stratégies pour pouvoir pallier à certaines choses. D'autres personnes, ça arrive sur un accident, une maladie qui arrive très très vite. Et donc, in fine, ça fait tout un tas de situations de communication différentes et tout un tas d'appréhensions du monde différentes. Et donc, tout ça, c'est à prendre en compte pour justement déterminer comment est-ce qu'on va pouvoir apporter la communication à ces personnes et comment est-ce qu'on va pouvoir leur transmettre l'information. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en situation de surdicécité recueillent l'information par le truchement d'autres personnes. Si on parle par exemple de la langue des signes tactile, qui est de la langue des signes qui va se faire dans les mains, c'est une variante de la langue des signes parce qu'il y a quelques petits paramètres quand même qui changent. Finalement, c'est une personne qui va nous donner l'information, qui elle-même va la recevoir. On parlait tout à l'heure de traduction ou d'interprétation. Si l'information passe par moi, forcément, je ne vais pas pouvoir rendre l'intégralité de l'information telle que je la reçois, mais il va y avoir un petit peu de moi qui va passer dedans. Je vais essayer le moins possible, puisque je vais essayer d'être le plus neutre, mais forcément, il va y avoir un petit peu de moi. Et donc, ces personnes-là reçoivent l'information avec un petit peu des autres dedans.
Avec un petit biais.
Mmh. Avec un petit biais, exactement. Et donc, ça, c'est intéressant aussi à étudier. Comment est-ce qu'on peut leur donner la possibilité d'avoir le moins de biais possible ? Vous parliez d'adaptation, ça peut être l'adaptation d'outils existants. Comment est-ce qu'on peut adapter les outils existants ? Comment est-ce qu'on peut adapter les formes de communication existantes ?
On parlait de la formation tout à l'heure. La particularité de votre travail aussi en tant que chercheur, c'est que cette recherche, elle côtoie le terrain, notamment avec les étudiants donc, qui sont en licence ou en master de traduction en LSF, traduction, interprétation, médiation. Il faut citer les trois. Et ça se fait notamment via des projets professionnels, avec des structures professionnelles. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de ces projets qui sont très concrets, finalement ?
Oui. Alors, il y a plusieurs projets. Juste une petite parenthèse. On a donc une licence et un master qui concernent la langue des signes en licence. On a des étudiants entendants qui sont plutôt dans un parcours anglais-français LSF et des étudiants sourds qui sont plutôt dans un parcours français langue écrite seconde, FLES, LSF. Mmh. En master, on a des étudiants, et vous l'avez dit, qui vont suivre une des trois options parmi interprétation, traduction ou médiation. Les étudiants entendants vont plutôt être dirigés vers l'interprétation, avec le français vocal et oral et la LSF orale. Et les étudiants sourds vont plutôt être sur le parcours sur l'option traduction et l'option médiation, avec traduction du texte écrit vers la langue des signes et médiation en LSF. En troisième année de licence, première année de master et deuxième année de master, les étudiants participent à des projets. Ils ne sont pas obligés, ils sont fortement encouragés. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours bon de compléter sa formation universitaire, qu'on essaye la plus pratique possible, mais bien sûr, on est obligé de donner des éléments théoriques, avec justement des mises en situation professionnelle. Donc on a des partenaires extérieurs qui nous sollicitent sur des projets ou des partenaires internes à l'université. On analyse le projet ensemble. On voit dans quelle mesure nos étudiants ont un intérêt pédagogique à travailler sur ces projets. On voit dans quelle mesure le besoin est répondu par le partenaire extérieur et aussi qu'il ne se sert pas de nous pour avoir un service gratuit ou en tout cas à prix réduit alors qu'il pourrait solliciter des professionnels. Et si tout est bon, les étudiants se portent volontaires pour participer à ces projets. Un exemple de projet, par exemple, c'est la participation à la mise en accessibilité de lectures de contes pour des enfants sourds à la médiathèque José Cabanis. On est en partenariat avec la mairie de Toulouse et la médiathèque, bien sûr, pour que des bibliothécaires lisent des histoires, donc avec un livre ouvert, comme si c'était des enfants entendants, et ces histoires sont interprétées en langue des signes. L'intérêt pour les étudiants, c'est que on travaille sur la version langue des signes, mais aussi on doit amener l'enfant à regarder le livre, puisque ce n'est pas nous qui sommes la star un petit peu de la lecture, c'est le livre qui doit être la star de la lecture. Donc il y a un travail en amont à faire pour ne pas juste produire une belle traduction, une belle interprétation avec une belle langue des signes, mais vraiment faire le lien entre ce qu'on produit et le visuel qui va être rendu dans le livre.
Et comment ils l'ont fait, les étudiants ?
Ils l'ont fait très très bien, parce qu'ils ont été très très bien encadrés.
Ça ne se révèle pas. Ça me fait penser justement, vous me disiez aussi en préparant ce podcast, qu'on ne peut pas, faire n'importe quoi, en fait, juste avoir la belle idée de vouloir traduire, par exemple, une pièce de théâtre en langue des signes et mettre un traducteur qui va signer sur le côté de la scène. Ça ne marchera pas, en fait. En tout cas, ça répondra pas aux besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, en fait, quand on est profane en la matière.
Ouais. Tout à fait. Ben, ça, c'est vraiment en lien avec quelle vision de l'accessibilité on a. Est-ce qu'on voit l'accessibilité comme quelque chose qu'on va rajouter à quelque chose d'existant ? Est-ce qu'on la voit un peu comme une contrainte ? Est-ce qu'on se la représente vraiment comme quelque chose qui est bon, ok, d'accord, il faut répondre à un besoin, il faut répondre à une injonction législative peut-être, donc on va mettre quelque chose en place ? Ou alors, est-ce qu'on essaye de se dire, ben, en quoi cette accessibilité, finalement, elle ne pourrait pas venir me servir ? Et on se rend compte que si on considère que la langue des signes doit être juste une accessibilité qui doit être ajoutée, on va faire potentiellement sur des pièces de théâtre, par exemple, ça s'est vu, une mise à disposition de la langue des signes sur le côté, au travers d'un interprète entendant, parce que comme ça, on ne s'embête pas à mettre quelqu'un de sourd qu'il faudra, ou avec qui il faudra mettre en binôme un interprète pour lui donner accès au contenu, etc. Donc, on met juste un interprète, c'est très bien. Quelques répétitions, ça suffira. De toute façon, il est juste interprète, c'est pas lui la star. Et on fait jouer la troupe. Sauf que les personnes sourdes, quand ils vont regarder la pièce de théâtre, ils vont pas arrêter de suivre l'interprète. Ils vont pas savoir qui c'est qui s'exprime à quel moment. Ils vont être complètement déconnectés de ce qui va se passer sur scène. À l'inverse, on a des troupes dans lesquelles il y a vraiment une sorte de bilinguisme qui est intégré. Donc, quel que soit le profil des personnes qui sont intégrées dans la pièce et qui vont produire la langue des signes, sourds et entendants, ils se retrouvent sur scène avec les autres acteurs. Et en fait, ça ne dénature pas la pièce en elle-même, au contraire, ça l'enrichit. Ça ne gêne pas le public entendant qui voit sa pièce de théâtre, qui y assiste. Il y a quelques personnes en plus qui se rajoutent sur la scène. Mais les personnes sourdes ont complètement accès, à ce moment-là, à la pièce qui se déroule, au visuel que proposent les comédiens, à la scénographie, à l'histoire. Et finalement, tout le monde en ressort bien content.
Jérémy Segouat, avant de terminer ce podcast, on a une tradition ici sur On Air. C'est de demander à l'invité un conseil de lecture, d'expo, conférence, peu importe ce que vous souhaitez sur ce qu'on vient d'évoquer. Ce vaste thème de la langue des signes française, la traduction.
Comme lecture, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de lectures sur le domaine culturel en langue des signes, précisément, en tout cas en France. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde anglo-saxon. Moi, ce que je vous encourage, chers auditeurs et chères auditrices, c'est suivre les événements qui peut y avoir autour de la langue des signes, notamment au Théâtre du Grand Rond à Toulouse, notamment à la CAF Poésie à Toulouse et au Musée des Abattoirs. Au Musée des Abattoirs, notamment, il est arrivé plusieurs années qu'il y ait des expositions accessibles en langue des signes où il y avait des personnes entendantes qui devenaient tellement la mise en accessibilité en langue des signes était compréhensible et magnifique à suivre.
Et je tiens à souligner, d'un point de vue culturel, il y a donc tout ça qui se développe, qui se met en place, mais que Toulouse, et ça c'est vous qui me l'avez appris, est la seule ville en France où il y a un parcours bilingue depuis la maternelle jusqu'au Master 2. Et évidemment, le Master 2, c'est ici, à l'Université Toulouse Jean Jaurès, et que les cours que vous donnez, notamment, se font en langue des signes française dès la deuxième année de licence, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, même dès la première année de licence, on fait quasiment tous nos cours en langue des signes. Et c'est vrai qu'en première année de licence, les étudiants ne maîtrisent pas forcément complètement l'LSF, donc on peut leur proposer de temps en temps des cours qui ne sont pas en langue des signes, mais après, sinon, c'est tout en langue des signes. Et on espère que notre parcours ne va pas s'arrêter jusqu'au M2, mais qui va pouvoir se continuer au doctorat dans les années qui viennent.
Un très grand merci, Jérémy Segouat.
Merci beaucoup.
D'avoir accepté notre invitation. On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'université, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'université. Et je précise que cet épisode de On Air, comme tous les autres d'ailleurs, est retranscrit sur le web média Miroir et donc accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques. On Air.